La coupe, le NASCAR débute cette fin de semaine à Daytona. Il y a eu une course il y a 15 jours à Los Angeles, mais ce qui est incroyable, c'est l'histoire au Québec de la fin de semaine, c'est que Jacques Villeneuve a réussi à se classer pour le Daytona 500 à 50 ans. C'est extraordinaire. On en parle avec Philippe Brasseur, qui est l'éditeur du magazine Pole Position. Salut Philippe!
Oui, salut Denis.
Philippe, incroyable, Jacques Villeneuve, là. T'sais, on sait qu'il allait là avec une équipe européenne et américaine, tentait de la classer, mais il n'y avait pas nécessairement des attentes élevées de se classer pour le Daytona 500. C'est extraordinaire, dans mon livre à moi, là.
Oui, ben c'est certain que, comme tu l'as dit, c'est avec une toute nouvelle équipe. C'est-à-dire que c'est un mix, cette écurie-là, d'une écurie hollandaise que Jacques connaît pour avoir roulé avec eux dans la série européenne de NASCAR, qui est Azemans, donc, et puis aussi l'écurie Rahome Brothers Racing, qui essentiellement est une toute petite équipe qui n'ont jamais eu vraiment de budget, qui roule dans la série NASCAR des camionnettes, la série Camping World Truck. Donc, c'est du monde. Ils ont acheté une auto. La voiture, elle a fait ses tout premiers tours de roue lors des essais à Daytona. Ils n'ont jamais testé auparavant. Puis on arrive, on n'a pas d'expérience. Là, ils ont engagé 4 jours avant la course, dans le fond, Tommy Baldwin Jr. comme directeur de course, qui est un monsieur qui a beaucoup d'expérience, à la fois comme pilote et surtout comme chef d'équipe. Il a eu dans son écurie. C'est lui qui, entre autres, qui avait fait débuter dans la série NASCAR Cup Danica Patrick. Et donc, ça, c'est un monsieur qui va leur permettre d'aller un petit peu plus dans la bonne direction, je veux dire comme ça. Parce que, oui, tu l'as dit, c'est un très bel exploit. Mais pour moi, ce n'est pas un exploit qu'il ait fait à 50 ans. C'est un exploit qu'il ait fait avec une aussi petite équipe, avec aussi peu d'expérience qu'à l'équipe. Et n'oublions pas une chose, Danny, c'est que Jacques lui-même, ça va être son premier Daytona 500, puis ça va être seulement son cinquième départ dans la NASCAR Cup. Hein.
Ah oui, effectivement. Puis Jacques, écoute, y a-tu cette écurie-là, vas-tu être là à plusieurs courses? Il était juste là pour le Daytona 500?
Alors, c'est une écurie, en fait, il prévoit rouler avec Jacques au Daytona 500 parce que leur autre pilote, qui est comme le fils du propriétaire de l'équipe, qui est Loris Hazeman, c'est un pilote hollandais, lui n'a pas ses certifications pour rouler sur des super ovales.
OK.
Donc, ils vont probablement faire rouler le jeune pilote hollandais sur des circuits routiers, mais c'est certain que s'il y avait un bon résultat pour Jacques ce dimanche, peut-être qu'à ce moment-là, ils vont essayer de l'engager à d'autres courses, peut-être plus, comme je disais, les courses sur ovales, vu qu'il est déjà prévu que c'est le pilote hollandais, Loris Hazeman, qui fait les courses sur circuit routier.
OK, mais, non, mais il y a plus de circuits ovales que routiers. Donc, Jacques pourrait courir de plusieurs courses quand même, là.
Théoriquement, oui, mais c'est certain que c'est une question d'argent aussi.
Ouais.
Puis eux, cette équipe-là, malgré tout, ils ont leur saison dans la série européenne de NASCAR qui va commencer, je pense, au mois d'avril. Donc, c'est certain que ça devient un petit peu difficile. Ils n'ont pas beaucoup de ressources. Puis c'est sûr aussi que l'écurie Raome, bon, elle a, je pense, 3 ou 4 camionnettes à engager aussi dans la série Camping World Truck. Donc, c'est tout du monde, je dirais, qui est arrivé un petit peu là. C'est une heureuse surprise. Mais c'était pas prévu nécessairement qu'ils se retrouvent comme ça dans la série NASCAR.
Ben oui, effectivement. Donc, faut s'attendre à quoi vendredi? Un bon résultat, c'est quoi? Milieu de peloton? Là, il part 40e. Est-ce que 20-25e, on pourrait dire que c'est bon? Faut quand même pas espérer être dans le top 20, là, mais quoi, 25?
Ben, je dirais que.
Ouais.
Ouais, en fait, oublions pas une chose, c'est qu'à Daytona, on a souvent vu des pilotes qui n'étaient pas des pilotes, on va dire, vedettes ou des candidats au titre gagnés. Hein. Le plus récent exemple, c'est celui de Michael McDowell l'année dernière, qui n'était pas du tout un pilote qu'on s'attendait à retrouver là et que par la suite, le reste de la saison, on l'a vu, il était plutôt autour de la 20-25e place, justement. Donc, je dirais que Daytona, il se passe toujours beaucoup de choses parce qu'on sait qu'il y a toujours l'un ou l'autre carambolage qui vient un petit peu remettre les choses en perspective, on va dire comme ça.
Ouais.
Souvent des drapeaux jaunes, des neutralisations en fin de course. Donc, on peut dire tout peut arriver. C'est sûr d'une chose, par exemple, on l'a vu hier lors de la course de qualification, c'est-à-dire que Jacques avait réussi à assurer sa place sur la grille de départ lors des essais qualificatifs, c'est-à-dire une voiture à la fois. Mais par la suite, lors de la course de qualification hier, il a dû abandonner parce que la voiture avait des problèmes. Justement, il était arrivé même en retard sur la grille de départ. Donc là, clairement, on voit que c'est des erreurs d'une équipe sans expérience. Alors, comme tu l'as dit, il part dernier, il part 40e. Ça, il part 40e à cause justement donc, de son abandon lors de la course de qualification d'hier jeudi. Mais c'est vrai que je pense que l'important, c'est de pouvoir garder le rythme, d'essayer de rester le plus longtemps possible sur le tour du meneur. Si c'est le cas, si on voit qu'au bout de, mettons, à 25 tours de l'arrivée, il est encore sur le tour du meneur, là, on peut espérer peut-être un top 20. Mais si rapidement dans la course, parce que les réglages ne sont pas bons, parce que l'équipe est un petit peu perdue ou est moins expérimentée, perd du temps lors des arrêts au puits et que lui concède rapidement un tour ou deux avant la mi-course, là, malheureusement, il ne faut pas s'attendre à un miracle.
OK. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner effectivement au cours des prochaines de la course de dimanche. Par la suite, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. Jacques est commentateur à Canal Plus en France également. Ça doit l'occuper aussi, là. Aussi, là.
Oui, absolument. Ben, lui, c'est un contrat. Donc, pour la Formule 1, il couvre donc les Grands Prix de
ouais.
Formule 1. Puis c'est certain qu'il ne faut pas se le cacher. Il est très bien payé
il
par
est très
ce
bon pour
réseau-là.
ça. Moi, j'ai la chance de l'écouter. Là. Puis, je ne sais pas si j'ai la chance, Philippe, de l'écouter, là, mais il est très bon aussi, là.
Oui, absolument. Ben, écoute, c'est certain que Jacques, il connaît son
ouais.
sport. Hein, je veux
ouais.
dire, on peut parfois ne pas être d'accord avec ses opinions, mais n'oublions quand même jamais une chose. Il est champion de la série kart IndyCar aujourd'hui en 95, vainqueur des 500 000 d'Indianapolis en 95, champion du monde de Formule 1 en 97. Bon, c'est un pilote. Moi, je me souviens de Jacques, notamment aux 24 heures du Mans, où il était arrivé. Au début, il me disait qu'il n'aimait pas du tout la course, il n'aimait pas du tout ce circuit-là parce qu'il trouvait trop dangereux. Puis quand il a pris confiance, mais il était le pilote qui était le plus rapide en piste à 2h du matin pendant l'épreuve. Donc voilà, c'est un pilote qui, malgré tout, a un talent exceptionnel. Et je pense qu'ici, sa qualification à Daytona, c'est là qu'on a vu justement son talent, parce que c'est vrai que la voiture ne valait pas la position à laquelle il l'a amené. Donc,
okay.
On va voir maintenant ce que ça va faire.
C'est une nouvelle écurie cette année, une nouvelle sorte de voiture, on l'appelle la Next Gen. À quoi s'attendre cette année? Vraiment de la... Est-ce que c'est vraiment... Il y a eu des essais, j'imagine? On ne sait pas, avec une nouvelle voiture pour tout le peloton, ça va donner
oui.
quoi?
Absolument. Ben, c'est sûr que ces nouvelles voitures-là, l'objectif, je dirais, c'est encore une fois de pouvoir renforcer l'aspect spectaculaire avec des voitures aussi au niveau notamment sécurité qui ont moins de risques de décoller. De s'envoler lors d'un accident. Donc, on a joué beaucoup sur la sécurité. Il était prévu aussi d'avoir un système hybride, mais ça, NASCAR l'a comme repoussé vraisemblablement en 2024 au niveau donc, des motorisations. On garde encore les V8 culbutés. Donc, c'est certain que de ce côté-là, on est resté avec une technologie connue. Mais je dirais qu'il y a toute une série de nouvelles composantes, entre autres le fait que si les personnes regardent la course, ils vont se rendre compte qu'avant, lors des arrêts au puits, on voyait les mécaniciens qui avaient donc différents boulons sur les roues qu'il fallait chaque fois changer. Et là, maintenant, c'est un écrou central, donc ça change pas mal l'arrêt au puits malgré tout. Il y aura moins de risques de se retrouver avec des erreurs qui sont faites par les mécaniciens. On se retrouve notamment en termes de changement de vitesse, ça devient des boîtes séquentielles. Donc, je dirais que ces voitures-là sont beaucoup plus modernes. C'est deux exemples que j'ai donnés là, mais c'est des voitures donc plus modernes que NASCAR veut aussi quand même qu'il y ait un peu moins de turbulence en arrière. Donc, sur des super ovales comme Daytona, de faire en sorte que les pilotes puissent davantage rouler en peloton très groupé et lorsqu'ils veulent dépasser quelqu'un qui soit moins pris par les turbulences aérodynamiques. Donc, moins de risques en théorie d'avoir des pertes de contrôle.
OK. Donc, du côté des pilotes maintenant, à quoi s'attendre?
Oui. C'est certain que le grand favori, c'est Kyle Larson, le champion de la saison 2021, qui a gagné beaucoup, beaucoup de courses, qui est vraiment un pilote qui est, au plus haut de son talent, au meilleur niveau de sa carrière. En plus, il est avec une écurie qui est redevenue la plus grosse équipe, l'équipe la plus performante, Hendrick Motorsports. Eux disposent de voitures Chevrolet. On a vu lors des courses de qualification que c'était surtout les Ford qui étaient dominantes, les voitures, comme tu l'as dit, de Next Gen, là, de nouvelle génération, les Ford Mustang ont beaucoup dominé. Est-ce que ça va être le cas lors des 500 000 ce dimanche? Ça, tout reste à voir. Mais c'est certain que, a priori, on peut dire que les voitures Ford du Team Penske et de l'écurie Roush Fenway Keselowski sont les favorites. Mais encore une fois, comme je disais, le Hendrick Motorsport avec des pilotes comme Kyle Larson ou Alex Bowman, c'est les deux pilotes qui partent en première ligne de départ. Ça reste quand même des écuries. C'est un petit peu comme dans toutes les séries de courses. Les grosses équipes, on va les retrouver en fin de course, même si elles vont peut-être être discrètes en début de course. Elles ont été discrètes lors des courses de qualification. Il faut s'attendre à ce qu'en fin de course, ils se retrouvent aux avant-postes et ils jouent la victoire encore une fois.
Dernière question que je vais poser, je vais parler de Michael Grenier en DTM. C'est une belle nouvelle,
oui.
Ça, en DTM. Écoute, on suivait ça avec Bruno Spengler. Est-ce que c'est encore très suivi en Europe? Tu viens de l'Europe, est-ce que c'est très suivi encore?
Ben, la dernière fois que j'étais une course de DTM, ça date d'il y a quand même quelques années, là, 4-5 ans. C'était à l'époque où Bruno Spengler
Ouais.
était là. La dernière année où il a joué le titre, il n'avait pas été champion cette année-là, il a été champion
OK.
en 2012. C'est certain que le DTM a changé beaucoup sa philosophie. C'est-à-dire que jusqu'à l'année dernière, en fait, on utilisait des voitures vraiment de type touring car, très, très performantes, très sophistiquées aussi. Les budgets des manufacturiers qui roulaient là-dedans, c'est quasiment l'équivalent de la Formule 1. Et donc, de
Ouais.
plus en plus, les manufacturiers ont quitté et on a amené les voitures de GT3. Donc, c'est une catégorie de voiture qui est normalement faite pour les courses d'endurance. On les utilise en DTM. Ça a été une année un petit peu bizarre l'année dernière parce qu'il y a beaucoup d'équipes justement qui arrivaient de l'endurance et donc qui découvraient un peu la série. Mais cette année-ci, on voit le retour d'anciens champions et je dirais que ça va redevenir, j'ai l'impression, un des championnats les plus disputés en Europe. Bon, personnellement, c'est-à-dire, je vis au Québec, donc j'ai moins suivi cette
Ouais.
série-là, mais c'est certain que ça reste un championnat qui est quand même très populaire. C'est très populaire surtout en Allemagne parce que c'est beaucoup de manufacturiers allemands, bien entendu. Et dans le cas de Michael Grenier, c'est vraiment une très, très belle opportunité. Tu l'as dit, il y avait eu auparavant, il y avait Spengler. C'est le seul pilote québécois avant Michael qui avait réussi à faire sa marque en DTM. Et je dirais que Michael Grenier, non, c'est une très, très belle surprise parce que c'est un pilote québécois de la région de Québec qui n'avait pas d'argent pour continuer en
Ouais,
monoplace. Il s'est
I know.
exilé en Europe. Il a fait vraiment, il est reparti quasiment de zéro à rouler dans des séries monotypes en Europe. Et puis là, il s'est fait remarquer par d'abord Lamborghini, puis maintenant par Mercedes. Il est devenu un pilote officiel Mercedes. Quand on dit pilote officiel Mercedes auprès d'un manufacturier, ça veut dire que c'est le manufacturier qui paye le pilote. C'est pas le pilote qui doit trouver des commanditaires pour aller faire de la course. Donc, c'est les conditions idéales pour un pilote professionnel, évidemment.
Ben, on invite les gens à aller sur ton site, c'est poleposition.ca, c'est bien ça,
C'est bien ça, oui.
c'est magazine évidemment d'actualité sur la course automobile québécois, canadien, un peu européen aussi également. Donc on invite les gens à aller sur ton site. Philippe, on va s'en parler assez régulièrement durant la saison.
Ben, c'est toujours avec plaisir, Dani.
Philippe Brasseur, l'éditeur du magazine Pole Position.